30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors bonsoir les sportifs de Divergence. La chronique de la Babale Carrée va se promener dans les allées de Roland-Garros, là où l'on va plus pour être vu que pour voir. Cet événement sportif planétaire est certainement l'un des plus rentables. Dans les coulisses, nous irons regarder sous les bâches, derrière les loges. L'invité, ben écoutez, 30 minutes chrono n'a pas pu trouver d'invité ce jour, c'est pas faute d'avoir cherché. Mais ils sont tous partis au FIS, où ils se sont cassés la figure. Bon, l'événement de l'année à Montpellier, c'est bien le FIS. Alors nous consacrons quand même une partie de cette émission à la programmation de demain dimanche et à l'ascension exponentielle de cette mecque des sports extrêmes. Enfin, pour conclure cette petite émission qui dure 30 minutes, nous reviendrons sur quelques derniers résultats, peut-être des informations sur nos sportifs de l'agglomération, avec un regard ébahi sur nos gazelles. Nos gazelles championnes de France qui ont bien mérité la place de la comédie. Je suis snob.
Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça, j'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher, je suis snob. C'est Bat, je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. Se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté, c'est passionnant, je suis snob. Ah ah, je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
La chronique de la Babale Carrée. Alors merci pour l'introduction de Boris Vian, je suis snob. Allez savoir pourquoi j'ai choisi cette chanson. Alors, quand on dit Roland-Garros, on pense bien sûr au tournoi de tennis, l'un des quatre du Grand Chelem, avec Wimbledon, l'US Open et les internationaux d'Australie. On pense à Rafael Nadal, l'incroyable joueur de terre battue qui cherche cette année à remporter une 9e victoire. Record absolu, pour mémoire, Bjorn Borg n'en compte que 4. Mais notre traditionnelle chronique de la Babale Carrée, qui aujourd'hui est jaune sur fond ocre, va plutôt s'intéresser à l'envers de ce prestigieux décor qui sert de vache à lait à la Fédération française de tennis, cher à Jean Gachassin, ancien international de rugby converti en patron prospère du tennis français. Quelques chiffres que je vais vous citer, ils sont tirés pour la plupart d'un article intitulé « Des rebonds et des millions » paru dans notre Bible sportive, l'Équipe, datée du lundi 26 mai 2014. Roland, comme on dit chez les snobs ou chez les branchés de la Porte d'Auteuil, Roland, c'est un immense tiroir-caisse. Le long des allées chics du village, on ne connaît pas la crise. Le chiffre d'affaires de ce tournoi est en constante hausse. C'est bien connu, en temps de crise et de vaches maigres, les riches s'en mettent tellement plein les raquettes qu'ils ne demandent qu'à deux pas de Neuilly, Passy, Auteuil, qu'à venir dépenser, et souvent aussi en faisant des affaires. En 2013, le chiffre d'affaires du tournoi, c'était un colossal 175,2 millions d'euros. Alors ce chiffre d'affaires est réparti en gros comme suit. 62 millions d'euros pour les droits des médias. France Télévisions, elle seule, déjà verse, si je me souviens bien, 17,5 millions d'euros à elle toute seule, hein, France 3, la télévision publique. Donc je reviens. 62 millions d'euros pour les médias. 50 millions d'euros pour le partenariat, alors avec bien sûr la banque BNP Paribas, que vous ne pouvez pas rater quand vous regardez Roland Garros, c'est la star de l'événement. La billetterie, elle, rapporte 25 millions d'euros, autant pour ce qu'on appelle les relations publiques, vous savez, les événements, les petites tentes, là où on fait rencontrer des gens. Le reste du chiffre, 12 ou 13 millions, c'est plus modeste. Alors, il s'agit quoi ? Bah, des produits dérivés, vous savez, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez bien à l'effigie de Roland Garros, hein, avec de la balle à, je ne sais pas moi, une coupe, un t-shirt, tout ce que vous voulez bien. Alors voilà, vous avez compris à peu près comment étaient répartis ces 175 millions d'euros. Pour les places, le prix de base, c'est 25 euros. Mais on grimpe très vite dans les bâches. Pour être VIP, et donc être vu, c'est 175 euros la place. Et avoir le droit au sourire un peu forcé d'une de ces 1000 hôtesses fournies par la prestigieuse agence Maola, eh bien, là, il faut quand même payer, et plus ça va, plus on paye. En tout, ils sont 8000 personnes à travailler à Roland-Garros pendant la quinzaine du tournoi. Si vous voulez vraiment montrer que vous avez du pognon, il vous faudra bien sûr une loge. Et comme elles ne sont que 258, il faudra peut-être attendre qu'une se libère. Le loyer est annuel. Alors, quel est ce loyer ? Alors, annuel, et ça varie. Alors, bon, ce sont des petites loges, vous savez, on met 4 ou 5, ou 6 personnes, pardon, de 4 à 6 personnes. C'est pas très bien assis, d'ailleurs, c'est pas terrible. Hein. Mais le prix varie de 55 000 euros à 70 000 euros annuel, avec l'obligation de réserver pour 3 ans. À la fin de cette édition, 90 loges seront mises à la location. Alors, si vous voulez vous dépêcher, eh ben, vous préparez un chèque de 210 000 euros, c'est donné. Les sponsors versent beaucoup d'argent à la Fédération française de tennis. Mais ils s'y retrouvent parce qu'eux, ils invitent leurs meilleurs clients. Alors, ils invitent ces sponsors 80 000 VIP de leur choix à Roland. Ces clients sont tellement contents que les affaires peuvent se faire entre une coupe au village ou entre deux sets dans une loge. Certaines marques font de ce tournoi leur vitrine principale de l'année. Outre BNP Paribas, on peut penser pour les Françaises à Lacoste ou à Perrier qui mettent le paquet pour être visibles sur fond de service à 200 km/h. Les bénéfices pour la fédération étaient de 75 millions d'euros en 2013, ce qui est énorme. Oui, mais il va falloir participer à l'extension du stade de Roland-Garros. Et là, il faut au bas mot 340 millions d'euros. En 2019, tout doit être terminé. Alors la FFT cherche des partenaires et des emprunts. Pour revenir aux sportifs, les successeurs de Rafael Nadal, toujours en compétition, et de Serena Williams, déjà sortie pour aller faire ses courses sur les Champs-Élysées, eh ben, ces successeurs empocheront un chèque de 1,65 million d'euros. Or, cela vaut bien quand même quelques revers, quelques coups droits, même un peu liftés.
and lightning. Heavy metal thunder racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space.
Eh ben merci à ce mythique groupe Steppenwolf pour sa chanson Born to be Wild, qui est la chanson qui introduit le film Easy Rider. Alors pourquoi Easy Rider ? Ben parce que à Montpellier fin mai, même si je n'ai pas d'invité, mais ça fait rien, je vais vous en parler. À Montpellier fin mai, qu'est-ce que tu peux bien faire pour te faire plaisir ? Eh ben, tu vas sur les bords du Lez. Sur les bords du Lez, c'est le FIZ. Alors le FIZ, c'est vraiment un événement exceptionnel. Alors on va parler un petit peu, rapidement, de son histoire, ce FIZ. Et puis je vous donnerai quelques nouveautés sportives qui ont été introduites cette année. Et enfin, le programme de cette journée de demain, dimanche. Demain, dimanche, c'est la dernière. C'est la dernière journée. Ne manquez pas d'aller sur les bords du Lez comme vous voulez, avec les amis, en famille. C'est difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. On attend des... on ne sait même pas. On fera le compte après. Mais sur les 4 journées du FIZ, je crois qu'on a atteint 400 000 spectateurs. C'est quand même extraordinaire. Peut-être même plus. Nous verrons ça plus tard. Histoire. Eh bien, c'est en fin 1997, donc vous voyez, c'est pas tout à fait d'hier quand même, que Hervé-André Benoît, un étudiant à Subdeco Montpellier, est très passionné par les sports de glisse. Ben, il a la fabuleuse idée de créer le Festival international des sports extrêmes, qu'on va résumer maintenant par ce mot mondialement connu de FIZ, Festival international des sports extrêmes. Il fait une entrée remarquée dès la première année, en 1997, dans le monde des sports alternatifs. Il y avait déjà plus de 100 riders et 35 000 spectateurs, en gros, pendant les 3 jours consacrés simplement à la rampe, au dirt et au funboard. On fait un petit saut dans le temps. En 1999, le nouveau challenge de ce troisième festival FIZ est de construire sa propre aire de street, imaginée par et pour des riders. C'est un véritable succès et le FIZ rentre réellement dans la cour des grands événements européens de ces nouveaux sports qui prennent de plus en plus de place dans l'imaginaire des jeunes, mais pas forcément des jeunes. On voit des riders qui sont très âgés, notamment en Californie. J'avais vu un reportage sur un rider qui devait avoir 70 ans à peu près et qui s'en sortait très très bien avec sa planche à roulettes. Nous continuons à monter dans le temps. Nous sommes en 2003, la 7e édition donc du FIZ. Alors c'est déjà, on va dire, extraordinaire le monde qu'on accueille, puisqu'on pense qu'il y aura à peu près 250 000 spectateurs à cette 7e édition. Excusez-moi. Et ça, on appelle ça maintenant le Nokia Fizz parce qu'on a trouvé des sponsors. Il faut bien se développer. Pour se développer, il faut de l'argent. On a vu pour Roland Garros, et ben, y compris pour le Fizz. Donc, ben, les organisateurs ont trouvé ce sponsor très important, Nokia. Et puis, on va internationaliser le Fizz. Ça part aussi à Dubaï. Ça va à Djerba, en Tunisie, etc. L'organisation est prête de structure pour le. L'organisation est prête, pardon. Et donc, on structure maintenant ce festival avec, par exemple, le Mountain Dew Extreme Challenge à Oman. Donc, vous voyez, à la fois, on reste à Montpellier, mais on part un peu partout. Et puis, on trouve de l'argent avec des sponsors de haut niveau. Nous passons maintenant à 2007. C'est une grande première pour le Fizz. C'est l'événement. Le Fizz 2007 se déroule en plein centre-ville de Montpellier. C'est la première fois. C'est sur les berges du Lez, là où il est actuellement. Alors, c'est en 2007 donc, que c'est la première. Alors, c'est une véritable ascension pour le Fizz, qui se refait une jeunesse avec des riders de renommée maintenant internationale. On vient de la planète entière pour participer au Fizz. Le Fizz a exporté et s'exporte également dans toute la France. On fait des petits-fils, si vous voulez. Hein, Montpellier a trouvé la possibilité d'envoyer ailleurs son festival. Alors Nokia, qui est toujours encore présent en 2007, hein, et ben il fait un petit-fils en Bretagne, puis après on est dans les Alpes-Maritimes, et puis on va aussi à Valence, à Mandelieu, pas loin de Nice, à Marseille, et même sur les pistes de la Plagne. Fizz 2011. Vous voyez, on avance dans le temps. C'est le dernier que je vais vous parler avant de celui de cette année. Le Fizz fête ses 15 ans en 2011. Et c'est toujours sur les berges du Lez. Avec comme nouveau partenaire un autre très grand groupe international, SFR, qui soutiendra également la tournée Fizz Experience. La tournée est devenue une réelle référence qui ne cesse de faire parler d'elle chaque année. Dans les médias, bien sûr, et aussi dans le milieu sportif spécialisé, le grand public et aussi tous les champions qui vont vouloir venir à Montpellier. Alors nous sommes en 2014 et demain dimanche, le 1er juin 2014, vous pouvez commencer à vous rendre dès le plus tôt possible si vous voulez avoir une place pour voir quelque chose. C'est toujours pareil. Alors on dit que les riders, les bikers, ça là, ils ne sont pas très très matinaux parce qu'en plus de faire leurs exhibitions, des fois ils restent un petit peu tard la nuit dans les lieux montpelliérains bien connus et festifs. Il paraît aussi que certains abuseraient un peu de consommation. Bon, eh ben écoutez, ils ont bien le droit de faire la fête. Ils ne viennent pas à Montpellier tous les ans uniquement pour nous faire des sauts et avec leurs engins. Ils viennent aussi pour connaître la ville. Et c'est pour ça qu'on est très content de les recevoir dans ce Fizz de Montpellier. Alors à 10h40, ça commencera par le BMX Flat amateur. Ça sera la finale, bien sûr, parce qu'on est dimanche, ça va être des finales. De 11h20 à 11h40, pardon, vous avez le BMX Flat, mais là, c'est le master final, ce sont les pros. Hein. De 11h40 à 12h30, roller, slopestyle, c'est les filles. Alors, comme on parle américain dans ce milieu-là, c'est la girl final. Hein, final girl. Et de 12h30 à 13h30, BMX Park, alors là, on va au BMX Park, c'est la finale des juniors. De 12h40 à 14h, vous avez les wakeboards. Alors, c'est le Master Contest. Ensuite, de 13h à 14h20, on revient au BMX Flat. C'est la pro finale. Et enfin, de 13h à 15h, les Roller Slide Pump, les pros. Et les Amateurs Contest aussi. Hein. De 14h20 à 15h, BMX Park toujours, encore une girl finale. De 14h30 à 17h30, BMX Avenue Street Line, Pro Contest. De 15h à 16h20, la Mountain Bike. Alors là, vous savez, là, ça monte et ça descend, les Mountain Bike. Hein. Et Valnot Slopestyle, amateur finale. De 15h20 à 16h20, Wakeboard Pro Finale. Et enfin, on va terminer de 17h à 17h20 avec la remise des prix, bien entendu. Alors, ça passera devant l'hôtel de région, vous savez où c'est. Et après la remise des prix, une dernière finale, c'est la pro-finale du BMX avec, disons, jusqu'à 19h à peu près. Et après, tous ces braves gens, bah, ils vont tous faire la fête ensemble, je suppose. Donc, vous avez le programme de la journée de dimanche. Vous avez eu un petit historique rapide du Fizz Montpellier, qui est vraiment notre événement sportif le plus important pour Montpellier. Hein. C'est number one. Hein. Notre nouveau maire, d'ailleurs, est très attaché à ça. Philippe Sourel, quand nous l'avions rencontré dans notre studio de Divergence, veut garder cet événement, même s'il a des problèmes avec, évidemment, les voisins. Ah, Ça, c'est normal. Il y a des gens en Antigone qui ne sont pas très, très, très contents quand il y a le fils. Alors, il y a, vous savez, c'est toujours pareil. C'est vrai, il faut les comprendre aussi. Hein. C'est des riverains. S'ils ne peuvent pas dormir pendant 4 jours, ça doit peut-être les gêner un petit peu. Mais il y en a qui prennent ça avec beaucoup de philosophie et qui disent, bah, écoutez, d'abord, un, ça ne dure que 4 jours. Si ça ne vous intéresse pas, vous partez le week-end. Et puis, si vous intéresse, c'est un événement mondial. Et puis, il y en a d'autres, bah, ils sont plus grincheux. Alors, ils font venir des milices privées. Vous savez, pour garder l'entrée des portes, parce qu'ils ont peur que peut-être il y en a qui rentrent en planche à roulettes chez eux, je ne sais pas. Bon, il ne faut pas être frileux, si on n'avait rien à Montpellier, qu'est-ce qu'on s'ennuierait ? Alors que je vais vous parler des quelques nouveautés sportives avant de se quitter pour un petit extrait musical. Hein. Alors en plus des disciplines traditionnelles que je vous ai citées, la BMX, MTT, roller, wakeboard, skateboard, des nouveautés sportives arrivent au FIS de Montpellier 2014. Alors il y a la trottinette. Vous savez qu'en anglais, trottinette, ça se dit scooter. C'est marrant, on pense toujours, nous, que c'est scooter, ben c'est pour moteur. Non, la trottinette se dit scooter. Alors, la trottinette fait son apparition sur le FIS cette année. Les meilleurs riders pro sont présents, d'ailleurs, pour s'affronter sur la Cedap Ramp. Vous savez, la rampe qui est en forme de W, là. Et des séances de dédicaces seront également proposées tout au long du festival, dans l'espace dédié au sport. Et c'est un sport qui est très en vogue, maintenant, ce scooter. Et puis, il y aura le slackline. Alors, en anglais, slack, ça signifie, on va dire, corde souple. Un slackline, vous voyez, c'est une corde, mais elle n'est pas trop tendue. Donc, c'est un peu de mouvement. Alors, ça s'apparente au funambulisme, on peut dire. Hein. L'objectif est d'avancer sur une sangle légèrement élastique, sans aucun accessoire. Des mouvements figures peuvent être réalisés. Cette année, sur le FIS, en plus de tester, vous pouvez aussi voir l'Open International de Slackline en collaboration avec des partenaires. Et vous verrez également Lucas Hubert, champion du monde 2012. Alors encore un grand champion parmi nous. Ben, j'espère que vous profitez bien du FIS. On se quitte un petit instant et je reviens après pour quelques résultats. Le lancer du CD.
Come on along with the black rider. They'll have a game. Down in the web of the black spider.
Eh bien voilà, nous voilà de retour dans samedi soir, enfin tout début de soirée, dans les studios de Divergence. Alors, le fils, c'est encore demain. Alors, ce soir, c'est samedi soir. Alors, bien entendu, faites la fête, mais essayez pas d'avoir quand même la voix de Tom Waits demain matin, parce que si vous devez faire des épreuves qu'on a citées tout à l'heure, il faut peut-être mieux éviter les 4 heures du mat et la fumée et l'alcool. Mais enfin bon, faites comme vous voulez, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, je vous fais confiance. En tout cas, essayez d'être correct, mais ça je vous fais confiance aussi, puisque... quand il y a incroyable ce nombre de personnes qu'il y a, il y a très très peu d'incidents durant le FIS, à part quelques éméchés qui oublient, qui sont là pour s'amuser. Mais c'est quand même relativement rare quand on pense au nombre de spectateurs présents. Donc chapeau les organisateurs du FIS, chapeau à la mairie de Montpellier aussi, qui continue à soutenir cet événement et qui continuera à le soutenir à mon avis. Alors maintenant, on va faire quelques petits résultats. On va mettre quelques petits résultats, mais c'est pas grave, j'ai pas eu le petit jingle, c'est pas grave, on enchaîne. Ça n'a pas d'importance. Alors donc, quelques résultats. Écoutez, on va parler quand même de qui ? On va parler de nos gazelles. Nos gazelles de Latte Montpellier. Figurez que nos gazelles, pour ceux qui ne le savent pas, elles sont assez grandes. Hein, elles courent peut-être, mais elles sont vraiment assez grandes. Et puis, elles ont un gros ballon dans les mains, plutôt de couleur orange, et elles mettent des paniers. Vous avez reconnu ? Eh bien, ce sont nos championnes de France. En fait, les Héraultaises sont enfin championnes pour la première fois de leur histoire. Et ils ont privé Bourges d'un 13e titre. Bourges, au basket féminin, c'est comme Cannes au volley féminin. Ça gagne tout le temps, à peu près. On avait reçu, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, 2 volleyeuses ici dans ce studio et on avait parlé de l'hégémonie cannoise. Eh bien, si on avait pu recevoir des basketteuses, mais on en recevra bientôt des basketteuses, on aurait parlé de l'hégémonie de Bourges. Eh bien non, cette hégémonie vient d'être coupée, retirée grâce à nos filles de Latte. Alors, ça doit vraiment, vraiment plaisir, hein, parce que les filles de Latte Montpellier se sont imposées à Bourges. Dans le match d'appui. Le premier match était déroulé à Montpellier. Elles avaient gagné dans une salle archi-comble, d'ailleurs, c'était à guichet fermé. Elles sont retournées à Bourges. Elles ont perdu d'un rien la deuxième manche. Et enfin, sur le match d'appui, elles ont battu les filles de Bourges 50 à 44. Alors, nos filles méritent largement qu'on leur tire un très, très, très grand coup de chapeau. Et on espère bien qu'elles vont essayer de garder leur titre l'année prochaine. Ça va être dur, hein, parce qu'il y a de la concurrence. Il y a Tarbes, notamment, enfin, et d'autres équipes. Et Bourges, bien, comme d'habitude. Mais enfin, maintenant, elles seront en Champions League, hein, nos filles de Latte l'an prochain. Alors, on leur souhaite bien du courage quand elles tomberont sur les Russes d'Ekaterinbourg ou des choses comme ça. Mais enfin bon, il faut vouloir. On leur tire un grand coup de chapeau. Elles ont eu l'honneur, comme nos footballeurs, en 2012, de la place de la comédie. Hier soir, vendredi soir, elles étaient sur la place de la comédie et vous aurez évidemment réservé un accueil chaleureux. Bon, ben voilà, ce 30 minutes chrono arrive à sa fin. J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter et on se retrouve la semaine prochaine pour encore une autre émission de sport sur Divergence. L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.